Vous écoutez
RMC. RMC, midi, 15h, Neumann Le Chypre.
Laurent Neumann, Emmanuel Le Chypre et Laure Clauzier.
Salut les amis, très heureux d'être avec vous. On continue à débattre jusqu'à 15h sur RMC. C'est Laurent Neumann.
Bon appétit tout le monde, c'est Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est Laure Clauzier et on va parler parentalité. Parentalité positive. L'éducation des enfants a énormément changé en deux, voire même une génération. Il y a ce qui est désormais interdit dans le cadre de la loi, comme la fessée depuis 2019. Et puis il y a les usages qui changent. On ne laisse plus les bébés pleurer pour faire leurs poumons. On leur donne à manger à la demande et non plus toutes les 6 heures. Et en plus, il ne faut plus crier. Une campagne de sensibilisation est lancée tout l'été par la Fondation pour l'enfance dans les grandes villes françaises à destination des parents pour rappeler l'existence des violences éducatives ordinaires comme les menaces ou les humiliations. Selon une étude réalisée par la Fondation de l'enfance auprès de 1300 enfants, 33% des parents ne savent pas ce que c'est que les violences éducatives ordinaires. Ils ne savent pas que c'est interdit. 36% ignorent même ce que c'est et pourtant, on est beaucoup à crier, comme Aurore, qui était au micro d'RMC.
Ça m'arrive de lui crier dessus. Pour se faire obéir, pour essayer que les choses aillent plus vite. Mais ça va pas plus vite. Hein, c'est pas parce qu'on crie que ça va plus vite. Mais des fois, quand les parents sont fatigués, ça peut arriver de crier. Je culpabilise comme si j'avais maltraité mon enfant.
Alors, est-ce que vous, il vous arrive d'élever la voix? Laurent, toi, c'est oui.
Moi, je suis fasciné par tous ces gens qui savent mieux que les parents comment il faut faire. Ils savent tout. Il y a des conseilleurs qui savent absolument quelle est la bonne méthode d'éducation. Alors, on a commencé, et c'est plutôt un progrès, on a commencé par dire la fessée, c'est interdit. Bah oui, c'est quand même la base, on lève pas la main sur les enfants. Mais maintenant, on n'a plus le droit d'engueuler les enfants non plus. Mais j'imagine que ceux qui prônent ces règles-là, j'imagine qu'en revanche, les enfants ont le droit d'engueuler les parents. Parce que ça, on n'en parle jamais. Mais dans certaines familles, éduquer les enfants, c'est extrêmement compliqué. Les enfants, ils ont aussi un caractère, comme les parents. Ce sont des êtres humains à égalité. Et donc, parfois, dans l'éducation des enfants, il y a des chocs de caractère. Et parfois, c'est très compliqué, la vie en commun à l'intérieur d'une famille. Alors, les violences corporelles, évidemment, il n'y a pas de débat de mon point de vue. C'est interdit, un point, c'est tout. En revanche, oui, on a le droit d'engueuler les enfants. Et parfois, il faut hausser le ton. Non pas leur hurler dessus, non pas les humilier, non pas les insulter, mais parfois oui, pour faire preuve d'autorité, faut hausser le ton. Et moi j'en ai un peu assez de tous ces donneurs de leçons, tous ces psys là qui publient des centaines de livres, etc., pour nous dire maintenant il faut faire comme ça, c'est comme ça, avant c'était mal, maintenant il faut faire comme ça. Bah oui, mais souvent c'est pas facile de suivre toutes ces règles.
Emmanuel.
Non, moi je pense d'abord.
Crie pas.
Bah non, moi j'essaye de convaincre. Alors moi j'ai été élevé comme ça, c'est-à-dire que moi il y avait jamais d'interdit qui tombait comme ça, en gros parce que c'est comme ça, parce que c'est moi qui décide, parce que je suis ton père, parce que je suis ta mère, tu me dois le respect, tu me dois ceci, tu dois cela, et si je te le dis, t'obéis, etc. Moi chez moi ça a jamais fonctionné comme ça et je ne fonctionne pas comme ça non plus. C'est-à-dire que quand il y a un sujet, j'essaye d'expliquer aux enfants ce que j'attends d'eux et j'essaye de les convaincre plutôt que de leur imposer.
Et alors, t'as jamais haussé le ton.
Bah, il se trouve que moi, j'ai des enfants qui sont plutôt très sages par tempérament. C'est comme ça. Donc, j'ai jamais eu à hausser le ton. Moi, si je les laisse tous les deux, ils font jamais une bêtise. Il se passe rien. Donc,
mais c'est intéressant parce que voilà, pardon, je t'interromps deux secondes sur un tout autre sujet qui n'a strictement rien à voir. Il y a quelques jours, on a débattu du vaccin obligatoire. Et moi, je disais, il faut dialoguer pour convaincre. Et tu me disais, mais non, faut pas convaincre, faut imposer, obligatoire, hop, ça tombe d'en haut, c'est
alors, voilà. Sujet,
et là, avec
alors,
les enfants,
le sujet,
tu dis, moi, je préfère essayer de dialoguer, il faut convaincre.
Le sujet est extrêmement différent, puisque dans le premier cas, tu vois bien que tu t'es heurté au fil des auditeurs qui nous appelaient, à des gens qui, de toute façon, ne croyaient pas. Tu pouvais leur envoyer, comme on l'a fait, tous les plus grands professeurs de l'Académie de médecine. Non, j'y crois pas, etc.
Donc
voilà.
Mais
tes enfants, c'est très différent, Laurent. Ah. Parce que d'abord, tes enfants, quand tu es sur un sujet, ils n'ont pas forcément d'a priori, ils ne comprennent pas forcément pourquoi tu leur imposes une décision, et tu peux leur expliquer.
Et quand
je ne dis pas qu'à la fin.
Quand tu as expliqué, qu'on te dit non.
Je ne dis pas qu'à la fin, il ne faut pas user de l'argument qui consiste à dire de toute façon c'est comme ça, mais moi ce que j'ai constaté dans 90% des cas, c'est que tu emportes l'adhésion et c'est beaucoup mieux parce que finalement tu n'as pas besoin de contrôler, de vérifier, de fliquer. Ton gamin, il se comporte parce qu'il a compris que c'était bien pour lui de se comporter comme ça. Et après, moi j'ai une conviction profonde, c'est qu'en fait, toutes les histoires sur moi j'ai une éducation et j'inculque cette éducation à mes enfants, etc. Pour moi, tout ça, c'est bidon. Ça n'est pas ça. Moi, je pense que la bonne éducation, c'est celle qui s'adapte au tempérament de ton enfant.
Ah bah, c'est-à-dire
que tu n'imposes pas ton éducation à tes enfants en fonction du caractère de tes enfants. Si t'en as un qui est plutôt bordélique, eh ben tu vas le pousser à ranger ses affaires.
Pardon,
etc.
Aujourd'hui on est passé de l'autre côté. Aujourd'hui on nous impose de faire un certain nombre de choses dans l'éducation des enfants. T'as cité deux exemples. Alors ça m'a intéressé. T'as dit aujourd'hui
un enfant qui pleure la nuit,
mais y a pas de problème. Viens, arrête de pleurer, viens dormir avec papa et maman. Un enfant qui a faim, mais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on lui donne à manger. Ah bon ? C'est ça la règle ? C'est vraiment ça la règle. Vous êtes sûr que c'est comme ça qu'il faut faire ?
N'oublie pas un principe de base.
Si certains le pensent, ils ont le droit. Mais est-ce que c'est comme ça que tous les parents doivent faire ?
N'oublie pas un principe de base, c'est que pour aimer la vie, il faut que la vie elle soit aimable. Voilà.
Oui.
Donc,
on est d'accord. Et alors ?
Voilà. Et ben, je pense que moi, il y a des frustrations qu'on a imposées à des générations d'enfants.
Absolument.
Qui n'étaient absolument pas nécessaires.
On a laissé pleurer des générations d'enfants et créer de la frustration et de la peur. Et désormais,
voilà,
c'est terminé.
Et en quoi c'était apprendre ? En quoi c'était une école de la vie ?
Je poursuis le raisonnement. Donc, désormais, un enfant, il ne doit plus être frustré. De rien.
Non, mais c'est
donc,
pas
faut
pas du tout.
À toutes ses envies, à tous ses désirs, etc.
Et attention à ne pas confondre les nourrissons, les générations d'enfants.
Mais pas
c'est
du
top.
Tout. Laurent, on te dit pas que quand tu te balades avec un gamin dans un magasin, dès qu'il trépigne, il faut lui acheter tout ce qu'il veut. On parle pas de ça.
Ah bah,
on parle
des ressorts.
Mais tu confonds le nourrisson, le bébé et l'enfant, Laurent.
C'est toi qui m'as parlé des enfants.
Non, je te dis, on laisse pas pleurer les bébés. Avant, on laissait pleurer les bébés. On n'allait pas les chercher. On les laissait pleurer dans leur. Mais ça, c'est terminé, Laurent.
Non plus. Je laisse pas pleurer mon bébé. J'ai jamais laissé pleurer mes enfants quand ils étaient bébés.
T'es vite retourné. Bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Tu te souviens pas qu'avant, on disait il fait ses poumons ?
Ah non.
Tout le monde disait ça. On lui donnait
etc.
à manger à heure fixe.
Moi, ça me déchirait le cœur quand j'entendais mon fils ou ma fille pleurer.
Bon, en tout cas, tout ça, c'est terminé. On vous attend au 32-16. Lisa Marie, on peut voter sur les réseaux.
Oui, on attend vos témoignages, vos messages. Est-ce qu'il vous arrive d'élever la voix sur vos enfants ou est-ce qu'il vous est arrivé d'élever la voix sur vos enfants ? Racontez-nous. Sur Twitter, sur Facebook et sur l'application RMC.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Jonathan qui nous appelle de Saint-Aubin-la-Plaine, qui est routier. Bonjour Jonathan.
Bonjour à vous trois.
Toi, tu as trois enfants en bas âge, ils ont quel âge ?
Ah, maintenant, ils ont 10, 6 et 7.
Ah, c'est plus le bas âge, ça. Hein. C'est le. Middle age.
Ça commence à devenir un peu plus grand, c'est plus intéressant.
Bon, alors, est-ce que toi, tu cries ? Est-ce que ça t'arrive de hurler ?
Alors, moi, je vais vous raconter une anecdote que je racontais tout à l'heure au standard. Il y a quelques années de ça, mon gamin avait 4 ans. Un jour, je rentre du boulot. Hein. Il avait mis des Legos dans les toilettes et tiré un chasse d'eau. Donc, j'ai passé 2 heures à déboucher les toilettes en lui expliquant qu'il ne faut pas le faire, c'est pas bien. 3 jours plus tard, rebelote.
Ah ouais.
Apparemment, il voulait faire des châteaux, je sais pas. Rebelote, je lui explique un peu plus durement en disant maintenant, il faut arrêter parce que 2 heures à déboucher, ça va pas con.
Ouais.
3 jours plus tard, on recommence.
Ouais.
Bon, ben là, au bout d'un moment, ça va quoi.
T'as pas pensé à supprimer les Legos ?
Ben ouais, mais bon, pourquoi supprimer à lui et puis laisser aux autres quoi ?
Ah oui,
attends, Jonathan, donc qu'est-ce que tu lui disais à chaque fois
Ben, que c'est pas
les
bien,
premières fois, tu lui disais.
Ben, il y a une raison. Tu sais pourquoi il faisait ça ou pas ?
Ah ben non, parce que c'était rigolo, hein, ça devait être rigolo. Puis voir papa en train de déboucher les toilettes. À 4 pattes, ça doit être vachement drôle.
Donc c'était peut-être pour te voir faire des choses.
Ouais, bah oui, c'est sûrement ça, ouais. C'est comme
tu vois, Jonathan, je suis désolé de te dire que Laure, elle est plutôt du côté de ton fils. Elle
trouve
ça rigolo de boucher les toilettes avec des Legos.
Moi, je dis qu'il faut trouver la raison pour laquelle le fils de Jonathan met les Legos dans les toilettes et qu'il faut aller à la source du problème.
Mais en attendant, il faut quand même déboucher les toilettes.
Ah bah évidemment qu'il fallait. Évidemment.
Il y a un moment où tu perds un peu ton sang-froid.
D'accord, mais ça ne marche pas, il recommence.
Et alors comment ?
Est-ce que c'est efficace de crier ? Non.
Jonathan, comment ça s'est arrêté ?
Eh ben, la troisième fois, j'ai gueulé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et là, bizarrement, ça a marché.
Ouais, tu lui as fait peur.
Ouais.
Ah ouais. Bah, au bout d'un moment, ouais, quand on a les loups à rappeler, au bout d'un moment, ouais, c'est chaud.
Mais ça, c'est intéressant parce que, effectivement, avant, on faisait quand même l'éducation par la crainte. C'est-à-dire qu'on craignait son père, on craignait sa mère, on avait peur. Moi, effectivement, mes enfants ne me craignent pas. Et alors, je n'ai pas l'intention qu'ils me craignent à un moment. Mais moi, j'ai zéro problème de gestion parce que je n'ai même pas de colère. Mes enfants ne font même pas de colère.
Toi, tu parles d'éducation par la crainte.
Ouais.
Mais l'éducation, c'est aussi expliquer les règles et donc, dans les règles, fixer des limites.
Oui, mais c'est pas.
Voilà, c'est pas la crainte. C'est pas la crainte. Oui,
avant, il y avait la crainte physique.
Quand
tu avais peur de te prendre une rousse, tu avais peur de prendre une fessée.
Quand tu dépasses les limites, tu sais qu'il y a un risque. Voilà, c'est pas la crainte.
Et bah pour moi, ça peut être le risque, ça peut être d'être puni, déjà. Supprimer tes Lego, c'est déjà quelque chose.
Punir un enfant, c'est une violence. Punir un enfant, c'est une frustration.
Alors est-ce qu'on a un avis sur la punition?
Punir un enfant, c'est pas une violence.
Jonathan, tu punis toi ou pas?
N'importe quoi.
Alors moi, je suis pas beaucoup à la maison, hein, parce que comparé à ce qu'ils disaient tout à l'heure, nous, on fait 56 heures par semaine. Hein.
Bah oui. Ah bah, tu vois, c'est au-delà du seuil de l'Union européenne, te dirait Laurent, il faut que tu ailles te plaindre.
C'est 48 heures normalement en Europe. Hein. On n'a pas le droit de travailler plus de 48 heures par semaine. Pardon?
Dans le transport, c'est 56.
Ah, je connaissais pas
collective,
cette
convention collective.
Et ta femme, comment elle fait toute seule, toute la semaine, là, pour gérer tout ça? Elle impose, elle crie
Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Hein.
Ouais.
Parce qu'en plus, ils sont vachement rapprochés. Donc, à 6 et 7, quand il y en a un dans les conneries, les deux, ils sont, quoi.
Oui.
Ouais, ça, c'est l'effet de groupe. Bah, merci beaucoup, Jonathan, d'être venu nous parler de ta famille. On était avec Céline, qui nous appelle depuis Châlons, en Champagne, qui est éducatrice de jeunes enfants. Bonjour, Céline.
Bonjour.
Toi, tu voulais nous dire que hausser le ton, c'est pas la même chose que hurler.
Ah oui,
on est d'accord.
Ouais, moi je mets une grande différence entre hausser le ton et hurler. Hurler, c'est vraiment perdre ses capacités, c'est l'adulte qui n'arrive pas à gérer ses propres émotions. Hausser le ton, voilà, je pense qu'on peut se faire écouter d'un enfant juste en haussant le ton, en faisant les gros yeux, et voilà. Et après, c'est aussi un travail de tous les jours, c'est réussir à cadrer et à garder le cadre avec un tout petit, quoi. Enfin, avec un tout petit, puis après, quand l'enfant grandit. Mais si le cadre au départ, il est pas là, les parents sont, je pense, débordés, et puis ça, on en finit par hurler.
Alors, donc Céline, pardon, en fait, tu es d'accord avec moi, puisque la question qui nous est posée, c'est « Et vous arrive-t-il d'élever la voix ?» Donc de hausser le ton, c'est exactement
hausser
le synonyme. Et
oui,
donc hausser le
hurler.
Ton, oui, il faut de temps en temps. Et hurler, tu vois, il y a quelques minutes, on parlait avec Emmanuel du droit de grève. Le droit de grève dans l'entreprise, c'est quand vraiment t'as tout raté. C'est un échec total. Bah, se mettre à hurler sur les enfants, ou pire, à lever la main sur eux, c'est quand t'as tout raté. C'est un échec total.
Complètement. Oui,
voilà.
Oui,
mais en revanche, hausser le ton, élever la voix avec un enfant, bah oui, heureusement. Sinon, il n'y a pas de limite. C'est comme tu me dis, Laure, pas de frustration. Mais tant s'il y a
jamais dit ça.
Si y a un enfant.
Je n'ai jamais dit ça.
Si,
non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il fallait pas de frustration pour les enfants. J'ai dit qu'on ne crée plus de manque et de chez le bébé. Je te parle pas de l'enfant
de
6 ans.
Bébé. Ah oui,
bah oui, bah non, je fais, excuse-moi, mais je fais la différence entre le bébé, l'enfant et l'adolescent. Ça me paraît être essentiel quand on parle
pour
d'éducation.
Moi, c'est tous les enfants en général.
Oui, bah non, mais c'est pas, oui, du coup, on se comprend pas. Céline, en tout cas, il y a quand même quelque chose, c'est que parfois.
C'est qu'elle va finir par hausser le ton.
Mais non, mais sinon, on se comprend pas. Si on se comprend pas, si on parle des adolescents, là, même chose que les bébés.
Est-ce que le dialogue est aussi apaisé chez toi?
Moi, le dialogue chez moi est apaisé. Je hurle jamais. Non, mais par contre, ça peut arriver de perdre ses nerfs une fois face à une colère qu'on n'arrive pas à gérer. Il faut aussi déculpabiliser un petit peu. Tu crois pas, Céline?
Oui, bien sûr. Et puis, mais bien souvent, quand on perd ses moyens, nous en tant qu'adultes, hein, c'est bien souvent quand on regarde, on a eu une journée super.
Et tu te sens mal après, quoi.
Super, voilà. Et après, on culpabilise par rapport à nos enfants. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma position. Je me dis mince, pourquoi je me suis énervée comme ça? Ça méritait pas de se mettre à crier comme ça pour parfois des choses futiles qu'on peut régler avec le dialogue, comme le dit si bien Emmanuel.
Et puis parfois, tu peux te mettre à hurler pour 3 miettes de smooth par terre et être très calme face à 2 heures de colère. C'est très étonnant.
Alors, je vais aller dans ton sens. Il se trouve que dans une autre vie, il m'est arrivé de m'occuper d'enfants. Voilà, j'étais pion, donc j'avais quand même beaucoup, beaucoup de gamins à m'occuper. Je me suis rendu compte que lorsqu'il y avait du bruit dans une classe, hausser le ton quand t'es sur l'estrade n'a aucun intérêt.
Et ben voilà.
La seule façon d'obtenir le silence, c'est au contraire de baisser le ton. parce que tout à coup, ils sont en train de se rendre compte que tu es en train de parler, mais ils ne t'entendent plus, et donc le ton baisse dans toute la classe pour se mettre au même niveau.
Alors, s'ils n'ont pas envie de t'écouter, ils ne t'écoutent pas.
Hein. Eh ben, je t'assure que ça marche.
Ils jettent des trucs à la tronche.
Je t'assure que ça marche.
C'est une boulette de papier. Merci beaucoup, Céline, d'avoir été avec nous dans Neumann Le Chip. Dans un instant, on sera avec Vincent Denery, c'est le directeur de la Fondation de l'Enfance, et avec Chris qui nous attend à Évry, qui est livreur et qui a deux enfants de 3 et 6 ans. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Neumann Le Chip.
On est ensemble jusqu'à 15h. Hurler sur ses enfants, c'est illégal. La Fondation pour l'Enfance lance une campagne pour sensibiliser les parents. Alors, est-ce que vous, il vous arrive d'élever, le mot est un peu faible, de crier sur vos enfants? Pour Laurent Neumann, oui, ras-le-bol des donneurs de leçons. Pour Amélie Chypre, non, jamais. J'explique pour convaincre. Dans un instant, on sera avec Vincent Denery, le directeur de la Fondation de l'Enfance. Mais avant, Lisa Marie, est-ce que tu as des messages?
Très nombreux à réagir sur l'application RMC, sur nos réseaux sociaux. Pour Céline, il faut surtout faire la différence entre hausser le ton, hurler, être ferme et enguirlander pour le dire poliment. Et elle écrit « Hurler ne sert strictement à rien avec les enfants, mais aussi entre adultes ». Florian écrit « Si hurler sur mon enfant est illégal, ai-je le droit de lui demander en m'excusant d'arrêter de faire des bêtises et de respecter mon autorité parentale ?» Et Sophie, elle a inversé la question, elle écrit « Et les enfants qui hurlent sur les parents, est-ce que c'est illégal aussi ?»
Et qu'est-ce qu'on risque d'ailleurs?
Laure, tu peux répondre à la question de Lisa Marais. Est-ce que lorsque les enfants se mettent à hurler sur les parents,
ça s'appelle une colère?
On fait quoi?
Ben on leur demande d'arrêter.
D'accord.
Okay, mais c'est pas illégal.
Non, on leur dit bravo, on les applaudit, on leur donne un bon bec.
Un petit travail d'intérêt général, rien.
Tu les enfermes dans les toilettes avec des Legos.
Un rappel à la loi.
C'est dur ça. Allez, on va au 32-16.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. Et on est avec Chris qui nous appelle depuis Évry, qui est livreur. Bonjour Chris.
Bonjour tout le monde.
Toi, salut, tu as deux enfants de 3 et 6 ans, c'est du bas âge. Donc, entre le bébé et l'adolescent, je précise pour Laurent qui ne sait pas toujours où se situe l'âge des enfants. Chris, toi, tu hurles sur tes enfants ou pas?
Alors, comme tout à l'heure, comme vous disiez tout à l'heure, hurler, il faut bien faire la différence entre hausser le ton et hurler. Pour moi, hurler, c'est qu'on est vraiment à la limite de lever la main, en fait. Hurler, c'est peut être humiliant, peut vite humilier un enfant, que ce soit en public ou même à la maison ou dans un magasin ou quoi que ce soit. Donc hurler, non, évidemment que non. Mais par contre, hausser le ton, je pense que c'est quand même une manière d'éducation, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes dans une société assez compliquée, assez violente, avec des choses qui se passent un peu partout et qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas comment arrêter ce genre de choses. Mais hausser le ton, je pense.
Non, mais hausser le ton, ça veut dire non, je ne suis pas content, c'est pas possible. Ça ne se fait pas.
Faire comprendre à l'enfant qu'on n'est pas d'accord, que ce qu'il fait n'est pas bien.
Oui, bah ça, c'est l'éducation.
Et que voilà. Mais en haussant le ton, oui, je pense que c'est une bonne manière de faire comprendre à l'enfant
Ce qui m'amuse, Chris, dans ce débat, c'est que d'abord, chacun est tout le temps persuadé que c'est comme ça qu'il faut faire et que les autres devraient faire comme soi-même. Tous ceux qui nous donnent des conseils, qui disent faut pas frustrer les enfants, faut pas lever la main, faut pas hurler, faut pas faire ceci, faut entendre les frustrations de l'enfant, les désirs de l'enfant. Mais ça va, quoi. Chacun fait comme il peut, déjà, et surtout, chacun fait comme il veut. Dans les limites de la loi, évidemment, on lève pas la main sur un enfant. Mais j'en ai marre. Mais tu sais, tout à l'heure, on parlait de ça. Avant, on disait il faut faire comme ça. Mm-hmm. Maintenant, on dit il ne faut pas faire comme ça. Mais c'est toujours il faut. Mais bon sang, mais chacun fait comme il peut.
Ah, peut-être qu'on apprend.
Peut-être. Mais le nombre de gens qui savent mieux que toi, moi, ça me fascine.
Non, mais attends, Laurent.
Tu peux dire ça sur tous les sujets. Aussi,
oui. Mais alors, surtout sur l'éducation des enfants.
Ce que tu ne peux pas nier, c'est qu'il y a quand même, au fil des années, des avancées scientifiques, cognitives, on en sait plus sur tout ce qui est neurosciences, on en sait plus sur ce qui se passe dans le cerveau, sur ce que peuvent ressentir des enfants, des bébés, qui avant n'avaient, enfin les bébés évidemment, mais les enfants même petits n'avaient jamais le droit à la parole, etc.
Non, mais donc, Emmanuel, il y a des générations de parents qui ont été d'un autoritarisme avec leur gosse insupportable, ils n'ont jamais fait leur mea culpa, ces parents. Mais cette génération de parents qui a suivi, qui a laissé tout faire aux gosses, au nom de « faut pas les frustrer, faut les comprendre, faut les entendre », des générations d'enfants rois derrière... peut-être que ces parents-là aussi, il faudrait qu'ils fassent leur autocritique. Je veux dire, entre les deux, les autoritaires, les tyrans d'il y a 50 ans et les laxistes de
oui, mais bon.
Bah oui, d'accord, ok.
Prends des extrêmes, mais est-ce que
je regarde, hein. Je vois comment certains se comportent. Pourquoi, à ton avis, la politesse globalement a largement disparu? Pourquoi le respect de l'autre a beaucoup disparu? Pourquoi on ne supporte plus la frustration quand on est devenu adulte? Peut-être parce qu'on nous a appris l'absence de frustration quand on était gosse. Bah oui, donc du coup, la vie adulte est tellement dure qu'on ne supporte plus d'être contredit, etc. Ça donne des générations d'individualistes, le collectif n'existe plus, voilà. Il y a peut-être aussi une question d'éducation.
Ouais, moi je le sais, t'es mieux avant, je ne suis pas cliente.
Non, contraire. Ah non, je t'interdis de me dire ça. Je t'ai dit le contraire. Je t'ai dit avant, il y a 50 ans...
Bah tu me disais avant, on était polis, avant, on aimait le collectif,
mais
avant...
Mais les tyrans d'avant... Ils n'ont jamais fait leur autocritique, mais les laxistes qui ont suivi au nom des mêmes règles, il faut les laisser faire.
Et Emmanuel a raison, là t'es dans deux extrêmes, donc forcément rien n'est de bon à prendre dans les extrêmes.
Je regarde ce qui se passe.
Non mais t'as l'air de dire quand même que c'était mieux avant.
Qui remet une pièce dans la machine. Merci. Okay.
Si,
Chris, reste
avant,
avec nous.
On ne fabriquait pas des générations d'impatients, de frustrés, etc.
Alors, je comprends Vincent Denery.
Les gens savaient gérer effectivement les manques. Ouais. Voilà,
les gens n'avaient
aucun esprit
critique.
Voilà.
Si c'est ce que t'as compris.
Bah oui, c'est ce que t'as
dit. On est avec Vincent Denery, qui est directeur de la Fondation de l'Enfance. Bonjour, merci d'être avec nous, Vincent Denery. Vous allez lancer une campagne pour faire comprendre aux Français qu'est-ce qu'une violence éducative ordinaire. C'est difficile de savoir exactement où est la limite entre l'éducation et la violence. C'est quoi une violence éducative ordinaire?
Alors déjà, c'est plus une violence physique. Et comme vous êtes très nombreux à l'avoir dit, il faut plus de violence physique parce que là, l'enfant ne les comprend pas. Ou alors il comprend que c'est la meilleure façon d'interagir avec les autres, donc forcément ça devient parfois un enfant lui aussi violent. Et puis si possible, une violence psychologique la moins fréquente possible. C'est-à-dire que bien sûr qu'on est tous irritables, bien sûr qu'on est tous confrontés par moments à des situations compliquées et qu'on peut hausser le ton et hurler. L'idée c'est que ça ne devienne pas la règle et la seule façon d'interagir et d'éduquer l'enfant. Voilà. Après, il y a des... points sur lesquels on tient absolument et qui effectivement ne sont jamais assez dit, c'est qu'éduquer sans violence, ça ne veut pas dire éduquer sans règles. Il faut que les parents gardent le principe d'édicter des règles et de s'y tenir. Parce qu'évidemment, si.
Le cadre est très important.
Le cadre, l'enfant, il a besoin de repères et de repères fixes. Le père, la mère doivent avoir les mêmes repères autant que possible. Et surtout, la qualité de ces repères et le fait de les imposer avec une certaine bienveillance et sans violence, ça fait de la famille un endroit où il y a des repères et où il n'y a pas de violence, ce qui est quand même indispensable.
Ouais, c'est marrant que vous disiez ça parce que la seule chose qui me rendait dingue, moi, dans l'éducation des enfants, et heureusement, je dois dire, ça n'est pas arrivé souvent, c'est lorsque le papa et la maman donnent des injonctions contradictoires. Je pense qu'une des règles, c'est déjà de ne pas se contredire devant les enfants. On peut après discuter. On peut après discuter avec le conjoint ou la conjointe en disant « Je suis désolé, là, ce que tu as décidé, je suis pas d'accord. » Mais jamais devant les gamins. Jamais. Il n'y a rien de pire. Vous parliez de repères fixes.
Sauf qu'il y a quelque chose de très difficile, c'est que vous n'avez aucune idée du parent que vous allez devenir, ni de celui que va être votre conjoint. Donc il peut y avoir des écarts fondamentaux entre deux parents.
C'est vrai, mais ça, on en discute entre adultes, pas devant les enfants.
Voilà. Toujours facile. Vincent Denery.
Surtout pour les règles les plus importantes de la vie.
Ah oui.
Voilà. Après, bien sûr qu'on peut ne pas être d'accord sur des petits détails, des choses imprévues, etc. Mais qu'au moins, je sais pas, sur les heures de coucher, sur la façon de gérer les repas, sur tout un tas de choses, les règles posées soient consensuelles entre le père et la mère et surtout tenues. Parce qu'il n'y a rien de pire, et ça je le constate assez fréquemment, que des parents qui lâchent dès que l'enfant monte en crise. Du coup, l'enfant, il apprend que quand il est en crise, il obtient ce qu'il veut. Mmh. Donc, quand on met au point une règle, on la tient. Alors, l'enfant va peut-être mal réagir. Il va effectivement...
Mais oui, mais vous savez quel est le problème de la crise? C'est les autres qui vous regardent. Et vous lâchez parce que vous voulez qu'il arrête.
Bien sûr, mais c'est la vie. Il faut l'accepter. Les autres vous regardent, c'est votre éducation. Si vous devez vous expliquer, vous pourrez expliquer que la règle que vous imposez à votre enfant est tout à fait légitime. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Je suis d'accord.
Par exemple, dans le train, la difficulté que c'est de gérer un enfant dans un train avec tout le wagon qui se dit mais que fait cette mère, cet enfant pleure, qu'elle fasse tout pour qu'il se taise. Ouais. Et toi tu te dis bah oui mais si je lui file ce qu'il veut, je suis foutu puisque je n'ai plus de... Donc tu es foutu dans un train. Donc tu prends la voiture. Ah, oh, quel enfer, on revient au débat mais après... d'avant.
Mais après, vous le savez, vous savez que l'enfant peut être irritable, donc vous essayez aussi de lui expliquer, enfin, pas être irritable, être un peu agité, être un peu hyperactif dans le train, parce que c'est dur de tenir 3 heures assis dans un petit couloir, etc. Mais vous pouvez, avant le démarrage du train, expliquer ce qui va se passer et donner une règle et surtout proposer des alternatives. Dire si si tu as envie de faire ça, ben, si tu veux, on jouera à ça, ou je te proposerai ça. Enfin voilà, essayer d'imaginer ce qui peut se passer et essayer de trouver un certain nombre de solutions et proposer des choix à l'enfant. Le pire, effectivement, parfois pour certains enfants, c'est de n'avoir aucun choix. C'est non définitif et sans explication. Alors que peut-être qu'on peut proposer des choix alternatifs. Tu veux pas mettre la table? Bah viens, si tu veux, tu mets tous les couverts et moi je mettrai les assiettes. Enfin voilà, on peut se partager les choses. On peut proposer des choix et l'enfant il est confronté à des choix et du coup il affirme son choix en faisant un des choix.
Et si vous pouvez, si je peux me permettre, mais encore une fois, quand je dis ça, c'est pas pour donner des leçons, parce que c'est difficile, c'est compliqué, ça dépend du caractère des enfants. Absolument. Mais souvent, tu parlais de l'histoire de la crise dans un lieu fermé, un lieu collectif comme le train, par exemple. Le problème n'est pas la crise. Le problème n'est pas l'attitude des parents au moment de la crise ou leur façon de gérer la crise. Le problème, c'est souvent ce qui s'est passé avant. C'est bah oui, si un enfant normalement, il doit savoir que cette crise, elle peut pas aboutir, donc il ne peut.
Non, mais quand t'es face à un enfant de 18 mois,
tu me parles des tout petits.
Bah, je te parle des tout petits, c'est le sujet. Oh, bah, la gestion du train, la gestion du train, c'est les tout petits, Laurent.
Quand des enfants de 5 ans, 6 ans font des crises et ça arrive, ils sont insupportables dans les trains, dans les avions. Ou n'importe où dans une salle d'attente.
Tout le TGV avec toi qui gère ton enfant.
À 18
et qui
ans,
fait des tweets en disant mois, j'ai mal dormi.
Non, mais à 18 mois, pardon, t'en voudras jamais à un petit de 18
mais
mois.
Tu rigoles.
Par contre, tu peux en vouloir à des parents lorsqu'un gamin de 6 ans qui se comporte mal.
Tout le monde comprend.
Vincent
on n'a pas pris
moi j'avais
train.
Une question sur.
Et après, on va prendre Pauline.
Par rapport aux règles entre la lettre et l'esprit. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il faut toujours que les règles soient appliquées à la lettre, je me suis battu un peu pour essayer de dire non, ce qui compte c'est l'esprit, c'est-à-dire que voyez, mais est-ce que c'est audible pour un enfant?
Non, parce qu'un enfant de moins de 8 ans, je pense pas qu'il soit en mesure de comprendre la différence entre la lettre et l'esprit de la lettre. Donc je pense que la consigne très concrète doit être tenue parce que c'est celle-là qu'il a comprise.
On est avec Pauline, restez avec nous. Vincent Dénéry qui nous appelle depuis Lisieux, c'est à côté de Lyon. Pauline, tu es commerciale, tu as 2 enfants de 3 et 10 ans, tu as déjà pris un train.
Oui, absolument. Bonjour à vous tous.
Bonjour, tu as passé des bons moments dans les trains.
Ouais, un grand moment de solitude pour le coup, ouais. Ouais, ouais. Non, mais en fait, je suis d'accord avec Laurent, je suis d'accord avec Emmanuel également. À titre personnel, moi, je l'ai vécu, la violence, en étant petite. Donc, je rentrerai pas dans les détails, mais je sais ce que c'est. Ça n'est pas productif, ça n'apporte rien. Ça n'endurcit pas, au contraire, je trouve que ça affaiblit et que derrière il y a toute une phase de reconstruction. Donc je ne suis pas du tout pour la violence physique et verbale également parce qu'elle est trop souvent banalisée, effectivement. Pour autant, nous sommes des êtres humains, comme le disait Laurent, c'est bien aussi de poser un cadre et par moment, je pense que les effets miroirs, c'est compliqué. Donc moi j'aurais tendance à vous dire que par moment je peux hausser le ton, mais est-ce qu'en fait j'ose le ton où je me mets à hurler, je m'en rends pas forcément compte. Je pense que c'est difficile d'être dans l'auto-analyse à ce moment-là. Mais pour autant, oui, bien sûr que j'ai tendance à hausser le ton avec mes enfants parce que ça va pas aussi vite que prévu, parce qu'on explique une fois, deux fois et que c'est toujours pas évident. Donc au bout d'un moment, ben on a tendance à perdre patience. Mais je pense que ça aussi c'est le fait de la société, de l'environnement dans lequel on évolue aussi.
Oui.
Donc en fait, entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on estime être bon pour nos enfants et ce qu'on fait en pratique au quotidien, oui, c'est sûr que des fois il y a un gros décalage. Je vous l'accorde. Et bien évidemment, l'exemple du train, je l'ai connu aussi, notamment avec mon petit. C'est pas simple parce qu'en plus les regards sont sur nous, donc on a envie de le faire taire rapidement pour pas incommoder les autres. Et en même temps, c'est pas forcément, bien évidemment, en haussant le ton qu'on va y arriver, quoi. Donc, je voulais juste vous donner un petit exemple très parlant.
Vas-y.
Parce que les parents vis-à-vis des enfants, c'est sûr, hein, comme disait Laurent, faut aussi que, comme disait Laurent, faut aussi arrêter de nous faire culpabiliser constamment. Parce que je pense que c'est surtout la prise de conscience et la pédagogie qui va nous permettre aussi d'être de meilleurs parents pour nos enfants. Et on y travaille au quotidien. Mais moi, mon petit a eu des problèmes de santé à la naissance. Et quand j'ai essayé de demander de l'aide et que je l'ai amené à l'hôpital, j'ai quand même un professeur des urgences pédiatriques qui m'a répondu. Et ça, c'est des mots qui resteront gravés dans mon esprit à vie. Un bébé, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il faut lui apprendre la frustration en le laissant pleurer par tranche de 25 minutes.
Ah oui,
sinon,
l'horreur.
Vous allez vous faire bouffer.
L'horreur. Et Mathilde, ah, l'horreur.
En pédiatrie, il y a trois principes. Votre bébé grandit, il grossit, il est éveillé. Égal, votre bébé va bien. Conclusion, votre bébé est chiant. Tout simplement.
Ouais. Ça,
donc la
horrible.
Violence, elle est aussi là. Hein. C'est bien de regarder les parents, bien évidemment, parce que... Bah,
mais tu vois, ça, c'est générationnel, Pauline. C'est-à-dire que ces médecins-là, ils vont partir à la retraite, tu vois, et puis...
Mais quelle horreur, quoi. Quelle horreur. Quelle
ah non, mais c'est horrible.
Quelle horreur, discours, parce que si des parents, effectivement, l'entendent comme ça, ils se disent, bah, c'est quand même quelqu'un, c'est un référent, quoi. C'est un exemple, il faut l'écouter. Il a la bonne parole. Super. C'est-à-dire, dès le départ, en fait, on est dans le faux. On est à côté de la plaque, quoi.
Non mais tu vois Pauline, je reviens à l'exemple que prenait Laure tout à l'heure, l'exemple du train ou de l'avion. C'est évidemment deux situations totalement différentes. Un petit gamin, un tout petit qui pleure dans l'avion parce que ça décolle, parce qu'il a mal aux oreilles, parce qu'il a mal aux dents.
Mais c'est l'enfer
etc.
avec les passagers.
C'est
Laurent.
Peut-être l'enfer avec les passagers, mais t'as rien le droit de dire aux parents.
Ah bah.
C'est comme ça, c'est la vie, c'est juste la vie. Par contre, un gamin de 5-6 ans qui mène une vie intenable à ses parents et du coup au reste de l'avion ou au reste du wagon parce qu'il n'a pas la tablette, parce qu'il n'a pas ceci, parce qu'il n'a pas cela, parce qu'il veut des bombes.
Mais personne ne fait la différence. Hein.
Ah bah moi je la fais en l'occurrence, et là pour le coup c'est de la responsabilité des parents, et ça ne se joue pas au moment de la crise, c'est tout ce qui s'est passé avant, parce que c'est ce gamin qui fait une scène comme ça, c'est sans doute pas la première fois qu'il fait cette scène là il l'a déjà fait 10 fois, et cette scène là elle a jamais été gérée, ni dans le train ce jour là quand ça vous nuit, ni les fois précédentes. Voilà.
Merci beaucoup Pauline de ton témoignage, d'être venue débattre avec nous dans Neumann le Chypre. Un grand merci à Vincent Denery, directeur de la Fondation de l'Enfance, qui lance donc une campagne pour expliquer ce que sont que les violences éducatives ordinaires, dans lequel il y a les hurlements, on parle bien de hurlements et pas de haussage de ton. On vous attend au 32-16 pour parler éducation. Dans un instant, on sera avec Khalid qui a 4 enfants, 8, 6, 4 et 2 mois. A tout de suite.
RMC, midi 15h.
Neumann le Chypre.
C'est midi 15h.
Neumann le Chypre,
on est ensemble jusqu'à 15h. Hurler sur ses enfants, c'est illégal. Hurler, hein, hurler très fort. La Fondation pour l'Enfance lance une campagne pour sensibiliser les parents. Alors vous, est-ce qu'il vous arrive de hurler sur vos enfants? Pour Laurent Neumann, oui, ras-le-bol des donneurs de leçons. Pour Neumann le Chypre, non, jamais. J'explique pour convaincre.
Ça a changé la question, hein, parce qu'au début, c'était est-ce que ça vous arrive de hausser le ton? Bah, ouais,
je change au fur et à mesure cette
hurler,
émission.
Je me souviens pas, je sais même pas si ça m'est arrivé d'hurler sur mes enfants.
Tu hurles sur Emmanuel Le Chypre.
Jamais.
Lisa m'a lancé le contraire. C'est Emmanuel Le Chypre qui hurle sur toi.
Il hurle sur
Lisa
moi.
Lisa Marie, tu as des messages.
Oui, beaucoup de témoignages. Laurence nous écrit « Évidemment que j'ai hurlé sur mes enfants. À qui ça n'est jamais arrivé? Il y en a marre de tous ces donneurs de leçons. Être parent, ce n'est pas simple. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Et s'il y a des parents parfaits, qu'on me les présente. » Et puis un message d'Olivier qui écrit « Effectivement, crier sur les enfants n'est pas la bonne solution. Mais faut-il pour autant continuer de créer des générations d'enfants rois? Soyons rationnels. Il faut arrêter de tout passer aux gosses. Et pour info, la frustration est maturante.
Moi, ce que j'adore, c'est ces gens très intelligents, hein, sans doute, et qui sont de vrais scientifiques de l'éducation, qui font des bouquins en te racontant comment il faut éduquer les gosses, comme s'ils te faisaient des livres de cuisine, tu sais. Alors, vous mettez ceci, cela, un peu de ça, un peu de ça, un peu
sauf
de ça.
Sauf qu'il y a des modes, ingrédients. Sauf qu'il y a des modes.
Bah, à la fin,
il y a
ça
des modes dans l'éducation des enfants.
Absolument parfait, heureux, épanoui, sympathique, poli, bien élevé, éduqué, etc. Mais ça se passe jamais comme ça. Ça se passe jamais comme ça. C'est cela que j'appelle les donneurs de leçons.
Oui, mais quand t'es à la maternité, on te donne plein de règles, et en fonction des modes, elles changent. Et donc, il y a bien un cadre que tu dois interroger ou pas. On va aller au 32-16.
RMC, Neumann le Chypre.
32-16.
Et on est avec Khalid qui nous appelle depuis Villiers-Saint-Paul dans l'Oise. Bonjour Khalid.
Oui, bonjour l'équipe.
Toi,
bonjour,
tu as 4 enfants, 8 ans, 6 ans, 4 ans et 2 mois.
C'est ça.
Est-ce que ça va?
Oui, je vais bien. Et puis, ça va, je suis assez jeune. Du haut de mes 36 ans, j'arrive à suivre le rythme.
Mais ça t'arrive d'hausser le ton, comme tout le monde.
Alors, moi, je suis passé par plusieurs étapes. Hein. Je vous ai à peu près écouté du mieux que j'ai pu. Et à savoir que moi, je suis passé du stade du hurleur. Donc, je vais être honnête, hein, j'ai hurlé sur mes enfants. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, bon, je dirais que ça va beaucoup mieux. Je suis passé, si vous voulez, plus à la fermeté, côté sans hurler pour autant. Mais je rejoins l'avis de Laurent Neumann. Pour moi, il faut de la fermeté avec les enfants. Je suis assez d'accord dans le sens où ce ne sont pas les rois. Il faut les préparer à ce qui les attend, entre guillemets, dehors.
Oui, mais la fermeté, c'est pas le hurlement.
Non. Comme je vous l'ai dit, je suis passé de ce temps-là le pire avec les enfants. Bon, je ne vais pas compter la petite de 2 mois, vu que c'est tout récent. Mais quand vous avez 3 enfants en bas âge, la plus grosse problématique que j'avais, c'était vraiment de les sortir. Dans le sens où soit aller voir de la famille, des amis, ou simplement prendre le train, ce qui m'est déjà arrivé avec eux. Et c'était, j'ai envie de vous dire, le plus difficile à gérer entre eux.
Ah bah ça m'étonne pas, le train, ça devait faire des cauchemars.
J'ai déjà tout eu, hein, le coup des toilettes, bon, je l'ai eu cette année-là, on va prendre cette année, on va pas compter les autres, peut-être 10 fois. Pas mal de choses entre eux, celui qui casse les carreaux de chez le voisin avec le ballon de foot, voilà, il y a plein de choses qui vont avec. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que ça nous apprend beaucoup, les enfants, à savoir déjà la patience. Moi, c'était pas forcément mon cas, hein. Derrière ces hurlements, si vous voulez, j'ai laissé place la manière Emmanuel de Chypre. C'est vraiment leur expliquer les choses, mais surtout l'intérêt qu'ils auront à y gagner. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus difficile à avoir. Mais une fois que vous arrivez à choper ça, si je puis dire, leur faire comprendre l'intérêt qu'ils ont, même au plus petit de 4 ans, ça va beaucoup mieux.
Mais t'as appris, quoi. C'est arrivé avec le temps et avec le...
Oui, j'aurais pu passer, parce que dans ma propre famille, on a la facilité. Je sais qu'on a abordé le sujet de tout ce qui est tablette, téléphone ou autre. On n'a pas ça à la maison et c'est pas évident, si vous voulez, quand ils vont à l'école et que les autres enfants les possèdent, nous, on a fait le choix de tenir le plus longtemps possible sans les avoir. Par contre, à contrepartie, on a pas mal de jouets équivalents du type éducatif ou autre, hein, de sorte de dessins animés qu'ils regardent. Mais le plus important, je pense, c'est de les accompagner le plus possible.
Et toi, t'as réussi à trouver le chemin.
Moi, honnêtement, je pense qu'il y a deux choses bien au-delà des règles. Bien au-delà des règles, il y a deux choses majeures. La première, c'est que rien ne remplacera jamais le temps que tu passes avec tes enfants, quel que soit ton mode d'éducation. Et que deux, le plus beau cadeau que tu puisses leur faire, c'est la confiance en eux. Voilà. Alors après, tu trouves les modes d'éducation qui vont ça. Et moi, j'ai vu, évidemment, on va pas se battre sur le socle commun. Bien évidemment qu'il y a des règles avec lesquelles il faut être totalement intransigeant. Le respect des autres, la politesse, etc. Mais au-delà de ça, moi, j'ai vu des méthodes éducatives très bien fonctionner sur un enfant et produire des effets désastreux sur un autre. Moi, j'avais un copain, il a appliqué à son garçon qui faisait pas tout à fait ce qu'il voulait, etc., des méthodes, je dirais pas proches de l'humiliation, mais où il cherchait à piquer sa fierté en lui disant mais là t'es pas bon, tu vas y arriver, etc. Et ben sur le garçon, ça a marché, ça a produit, il y avait des réactions de fierté qui faisaient que le gamin il se battait, et puis il a appliqué la même chose avec sa fille et ça a produit des résultats désastreux parce que elle avait plus confiance en elle, etc. etc. Donc il faut, au-delà d'un tronc commun,
s'adapter.
Et moi je pense que c'est toujours mieux quand tu expliques, hein. À l'armée on dit toujours chercher à comprendre c'est commencer à désobéir. En famille c'est exactement le contraire, tu acceptes beaucoup mieux une règle quand tu comprends son sens et son utilité.
Même l'armée revient là-dessus.
L'armée revient là-dessus, tu vois.
Merci beaucoup, Khalid, d'avoir été avec nous dans The Man of Chypre. On est avec Dalinda qui nous appelle de Chambéry. Bonjour, Dalinda.
Bonjour.
Toi, tu es cadre commercial et ça t'est déjà arrivé de hurler. Et si tu t'es pas senti très bien.
En fait, sachez, Laure, Emmanuel et Laurent, vous avez tous les trois raison. Et on fait avec notre cœur. En fait, moi, je suis passée par toutes les étapes avec mon fils. Il va avoir 10 ans le 8 juillet. Eh ben, sachez que j'ai hurlé. Ça n'a servi à rien. Je suis même passée par la claque. Ça n'a servi à rien. Il m'a poussée à bout. Ça n'a servi à rien. J'ai pleuré toute seule comme une conne parce que j'ai été violente avec mon fils. Ça n'a servi à rien. Il est vrai qu'il faut discuter, mais après, je pense qu'il faut prendre en compte... l'état du gamin, le caractère du gamin, et il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Mon fils fait un trouble d'opposition à l'adulte. À partir de là que nous avons su cela, nous gérons, et ça va beaucoup mieux à l'école. Si vous me laissiez le temps que je vous raconte tout ce qui s'est passé à l'école avec mon fils, mais c'est un truc de dingue. À la maison, c'est pareil.
On n'a pas énormément de temps, Dalinda, mais en tout cas, ce qu'on comprend de ce que tu nous dis, c'est que quand quelque chose marche pas, il faut changer de méthode, faut pas s'arc-bouter.
Ben voilà. Il faut trouver le moment pour. Il faut d'abord attendre que la violence s'apaise et puis discuter.
Discuter, voilà. Bon, c'est pas toujours facile parce qu'il faut quand même du temps pour discuter.
Tu sais, Laure, on a failli se faire virer de l'avion parce que mon fils de 3 ans ne voulait pas s'attacher.
Ah oui.
Et ouais, c'est le commandant qui est venu nous menacer et nous dire que si dans 5 minutes il s'attachait pas, eh ben, il nous virait. Il a fallu qu'on use de la violence devant un public dans un Boeing pour, avec notre fils, mon mari lui tenait les pieds, moi je lui tenais les mains et on l'a attaché.
Mais attends, le commandant, ça a pas suffi à lui faire peur, parce que moi, le commandant, il serait venu me dire de mettre ma ceinture.
Mais
dire
que mon fils n'a peur de rien.
Ah ouais.
Et dans le train,
pas tous les mêmes enfants, quoi.
Vous parliez du train, les amis, mais c'est pareil, je pourrais vous en raconter des bonnes et des vertes et des pas mûres. Mais depuis que j'ai décidé d'arrêter de hurler et de hausser le ton, c'est parce que hausser le ton, je comprends la différence, je ne fais pas l'amalgame entre hurler et hausser le ton. Eh ben, j'attends que la crise, elle passe. Je fais la gueule toute seule dans mon coin. Et il vient et on discute. Et ça va mieux. Et là, il commence à grandir. Il comprend que c'est pas comme ça que font les choses. Et ça va mieux.
Et ça marche. Bah, merci beaucoup, Dalinda, d'être venue nous parler de ton expérience avec ton fils. C'est la fin de No Man Le Chip pour aujourd'hui. On se retrouve demain, midi, 15h sur RMC.
On pourra se hurler dessus tranquillement.
Tranquillement, dans un instant, vous retrouvez le super Moscato Show avec Vincent Moscato.
Et oui, Laure, le super Moscato.
Salut.
Ta crise, j'étais pas là. Comment ça va, Laure?
On a fait une belle émission. Tu hurles pas, toi? T'es gentil comme un petit chat.
Je frappe d'entrée, moi. Crac. Une droite, un crochet gauche, un kick.
Et il y a personne qui moufte.
Voilà. Non, il est gentil comme tout avec les enfants.
Voilà. Oh, je suis pas un tortionnaire, là. Donc, ben oui, le Tour de France qui attaque ce week-end. Alaphilippe dit qu'il veut gagner peut-être une étape ou deux. Est-ce qu'il cache ce jeu? Est-ce que, tu vois, il a un peu la pression quand même. C'est parce qu'il faudrait qu'il le remporte ce tour. France-Portugal ce soir, les amis, on va regarder ça quand même. Ce France-Portugal. Attention, ça serait quand même mieux de sortir premier. Tu vois,
le match nul. Je le confirme.
Faudrait pas perdre, quoi. Ouais, ça serait quand même beaucoup mieux. Et puis c'est le club omnisport, donc on va parler un peu de tout, tu vois, de tout.
Avec de l'expertise.
De l'expertise, mais je comprends bien. On est une émission d'experts. D'ailleurs, on est reconnu pour ça dans le monde entier. Allez, on arrive tout de suite.
Salut Vincent.
Passez une bonne soirée.